Éric Brunet, la campagne. Évidemment, vous recevez Nathalie Arthaud, la candidate de Lutte Ouvrière.
Tout à fait. Exercice de démocratie directe. Vous qui m'écoutez, mesdames, messieurs, vous m'appelez au 3216 et vous pourrez poser vos questions à Nathalie Arthaud. Alors aujourd'hui, le Brunet Métrie, de quoi s'agit-il? Eh bien, je défends l'idée qu'il y a trop de candidats d'extrême gauche à l'élection présidentielle. Moi, j'adore la pluralité. La France est un pays pluriel sur le plan de sa démocratie et de sa vie politique. Ça, c'est formidable, mais je trouve qu'à l'extrême gauche, il y a un peu de monde et que, voilà, je m'interroge, est-ce que c'est pas suicidaire qu'il y ait tant de candidats à la gauche de la gauche? Voilà, c'est la question que je vous pose à vous et que je poserai à Nathalie Arthaud dans un instant.
RMC, intégrale présidentielle, carrément Brunet, Éric Brunet.
Bonjour Nathalie Arthaud.
Bonjour.
Vous êtes fatiguée, on est à trois grosses semaines du premier tour d'élection présidentielle, vous êtes une femme, je me dis que c'est pas anodin, c'est un marathon épuisant. Nos journalistes à RMC nous disent qu'ils sont fatigués quand ils suivent les candidats.
C'est vrai que c'est intense, je viens de Limoges, j'ai animé un meeting hier soir et ce soir je serai à Lille, donc effectivement c'est intense et en même temps c'est enthousiasmant et quand on a des convictions à défendre, on est quand même porté justement par cette campagne, par l'envie de convaincre.
Dites-moi, Nathalie Arthaud, je vous écoute, vous fustigez souvent le libéralisme, vous n'êtes pas la seule, d'ailleurs ça devient assez fréquent de fustiger le libéralisme, de Marine Le Pen à Philippe Poutou, tout le monde fustige le libéralisme, même Sarkozy qui veut l'humaniser, tout le monde est anti-libéral, et en même temps, je regarde, là, il y a trois ou quatre candidats qui ont un rapport avec le trotskisme. Mais finalement, c'est pas l'arithmétique à laquelle je m'attendais, on a 100% de candidats anti-libéraux et on a 4 candidats sur 10 qui ont eu un jour, qui ont croisé le trotskisme, vous, Poutou, même Jacques Cheminade dans sa jeunesse, et puis Mélenchon, qui a été trotskiste. Finalement, la rareté n'est pas là où on l'imaginait.
Je crois que tout le monde peut avoir effectivement croisé le trotskisme, avoir été à des réunions politiques où effectivement ils ont discuté de plein de choses. Enfin, maintenant si on parle là des candidats d'extrême gauche, je tiens quand même à faire une mise au point. Il n'y en a que deux, Hein, Jean-Luc Mélenchon lui-même s'en démarque, dit que lui il est socialiste, il est dans cette lignée de gauche gouvernementale. Donc il y a effectivement deux candidats d'extrême gauche. Autre mise au point, je ne suis pas contre le libéralisme, mais contre le capitalisme. Moi, je dénonce cette économie capitaliste qui est inégalitaire, injuste, mais qui est aussi absurde, complètement irrationnelle. Cette crise, quand même, on est en plein dedans, non pas parce qu'il n'y a pas assez de richesses, parce qu'on n'est pas capable de produire suffisamment, mais parce qu'il y en a trop à un pôle de la société et qu'on voit cet argent, ces milliards, aspirés par la spéculation qui finit par nuire à toute l'économie.
On va parler tout de suite de la révolution. Écoutez Mélenchon, écoutez-le.
Nous nous sommes rassemblés parce que nous allons faire de cette élection une insurrection civique qui va, en se donnant d'abord rendez-vous dans les urnes, commencer ce jour-là la révolution citoyenne.
C'était donc Jean-Luc Mélenchon lors de son discours à la Bastille le 18 mars dernier. Quelle révolution? De quelle révolution parle-t-on? Vous êtes révolutionnaire. Lui, l'est-il? Est-ce qu'au Parti communiste et plus généralement au Front de gauche, parce qu'il n'est pas communiste, l'est-il? De quelle révolution est-ce qu'on parle? Est-ce que vous, c'est la même que Poutou? Est-ce que Poutou, c'est la même que Mélenchon? Lui, il parle de révolution, d'insurrection citoyenne. Vous parlez de quoi? Expliquez-moi.
Vous avez raison de poser le problème, parce qu'effectivement, une révolution, ça veut un peu tout et rien dire. Ce mot, aujourd'hui, vous savez, vous faites un tour de 360 degrés sur vous-même, on peut parler aussi de révolution. Nous parlons bel et bien de révolution sociale, Et une révolution, c'est pas dans les urnes, c'est avant tout l'irruption de millions de femmes et d'hommes qui décident de prendre leur sort en main. Voilà. Tous ceux qui sont exploités, qui sont les petites mains de cette économie, qui passent leur vie au travail, leur vie à trimer, à être exploités, qui se disent enfin, on peut aussi la diriger cette économie. On a notre mot à dire dans les grandes décisions économiques de la société. C'est avant tout cela, c'est un changement de pouvoir. C'est que l'ensemble de la population, des travailleurs, prennent effectivement le pouvoir politique et puissent ainsi diriger l'économie. Donc c'est de cette révolution-là dont on parle. Vous savez, c'est une vieille tradition, je dirais. Hein. Nous, effectivement, on met nos pas vraiment dans ces générations de femmes et d'hommes qui se sont battus pour la révolution sociale, avec pour perspective une société sans exploitation, sans cette loi du profit, sans classe sociale. Donc une société débarrassée, de la propriété privée capitaliste, des grandes banques, des grands moyens de production. C'est ça, les idées communistes révolutionnaires qui ont été portées au tout début, incarnées par les premiers partis socialistes, et après par les partis communistes dans les années 20. Mmh. Mais ces deux partis se sont finalement rangés dans le système.
En 1940, un certain Joseph Staline a fait assassiner à Mexico Léon Trotsky. Vous en voulez toujours au PCF? Pour vous, pour cette raison-là, il n'y aura jamais de vous qui êtes trotskiste, il n'y aura jamais d'union, de proximité? Ou est-ce qu'en ce début de troisième millénaire, ça vous paraît pas absurde de vivre encore sur ces schémas?
Ce que j'ai à reprocher, moi, aujourd'hui, à la politique du Parti communiste, à la politique des dirigeants du Parti communiste, c'est évidemment pas les crimes de Staline, c'est y compris le fait de s'intégrer aujourd'hui à ce système politique, qui fait la part belle à la bourgeoisie, aux plus riches, à ceux qui dirigent l'élite économique. Voilà, c'est ce que j'ai à lui reprocher. Maintenant, je pense effectivement que le stalinisme, hein, qui a caricaturé, a déformé l'idéal communiste et a nui à cette perspective-là, à ce combat qui a été mené encore une fois par des générations et des générations. Et pour moi, être trotskiste, c'est pas reconnaître des décennies après les ravages et les dégâts que le stalinisme a fait. C'est être de ce combat-là qui, au moment même où effectivement la bureaucratie stalinienne prenait le pouvoir et détournait la révolution de ses objectifs, c'est avoir participé à ce combat. Pour moi, être trotskiste, me revendiquer du combat de Trotsky, c'est la seule façon de pouvoir aujourd'hui lever ce drapeau des idées communistes et d'un changement de fond de la société.
Alors justement, je vous l'ai dit, des auditeurs m'appellent, elle s'appelle Alice, elle a 53 ans, elle est employée de maison dans le département du Rhône. Bonjour Alice.
Bonjour monsieur.
Je tiens à vous dire que rien n'est préparé, hein. Alice a appelé au 3216 et elle va vous poser une question. Ah ben allez-y Nathalie Arthaud, je vous écoute Alice.
Voilà, bonjour, je voulais dire à Nathalie Arthaud que c'est une dame que j'admire, comme Arlette Laguiller. Mais malheureusement c'est dommage parce que c'est des gens comme vous qui nous défendent, vous voyez, j'ai du mal à parler parce que on en a marre, vous voyez. C'est tout ce que vous dites, c'est vrai. Moi je travaille depuis l'âge de 16 ans. Et voilà, j'étais toujours payée au SMIC, je travaillais plus de 50 heures par semaine, le patron me roulait. Et voilà, quoi. Moi, 16 ans après, je gagne que 500 euros de plus. Voyez. Alors, je voulais vous dire que, comme je vois que vous n'avez pas beaucoup de pourcentage, et puis que Mélenchon est en tête, vous voulez vraiment pas vous porter dessus. Voilà ce que je voulais vous demander.
Ouais. Seriez-vous prête à soutenir Jean-Luc Mélenchon? Vous demande Alice.
Eh bien, non, parce que moi, je crois que, aussi petit que nous sommes, hein, et aussi peu nombreux que nous sommes, il faut porter justement cette voie-là, cette perspective que les travailleurs, ils en ont marre de subir, et que ils sont conscients que leur destin, leur sort ne dépend pas d'un changement de gouvernement. C'est important aussi de le dire, qu'on n'est pas dupe. Des changements de gouvernement, on en a vu, y compris ceux qui se proclamaient très à gauche, qui avaient suscité beaucoup d'espoir, beaucoup d'illusions, et puis qui réunissaient autour d'eux. Moi, je pense à Mitterrand. Mitterrand qui avait suscité aussi énormément d'attentes de la part des exploités.
Oui,
et au bout du compte,
vrai.
Au gouvernement, voilà. Alors moi, ce que j'ai envie de dire, justement, à tous ceux qui se sentent dans ce camp-là et qui ont envie de changer les choses, c'est que, il va falloir qu'on compte que sur nous-mêmes, qu'on arrive à s'unir, dans les combats, dans les luttes. Il y a effectivement une loi qui est non écrite dans cette société. Une loi où finalement, l'argent va à l'argent. Voilà.
Oui,
et les plus riches ne font que s'enrichir. Et ceux qui bossent, ils passent leur vie au boulot, sans pour autant.
Voilà.
Et cette loi-là, elle est non écrite. Aucune constitution, aucun gouvernement ne peut peser. C'est les travailleurs eux-mêmes qui peuvent peser.
Je comprends pas, madame. À chaque fois, comme là, j'étais un peu écœurée, vraiment. Quand je pense qu'il y a des ouvriers qui ont pu voter Sarkozy, je les comprends pas. Vous arrêtez pas compte, c'est toujours nous qui traînons dans cette affaire. Vous arrêtez pas compte combien je gagne? 1100 euros par mois. Je n'ai droit à rien du tout. Qui sont riches, ils touchent les allocations familiales, et nous, on gagne que 2200 euros par mois. Moi et mon compagnon, à deux, hein, pas pour nous tout aller, on n'a droit à rien. Et eux, ils s'en mettent plein les poches. Pourquoi ces gens, ils votent pas pour des gens comme vous? Je comprends pas. Je suis vraiment dégoûtée.
Alors... Alice, je reprends votre question. Il y a la question de la dilution. Vous savez, elle est en filigrane de ce que nous dit Alice. C'est un peu la question que je soulève aujourd'hui, Nathalie Arthaud, puisque d'ailleurs, Brunet Mitry, vous pouvez voter, mesdames, messieurs, c'est gratuit, sur rmc.fr. Je dis, il y a trop de candidats d'extrême-gauche à l'élection présidentielle. Vous votez pour ou contre. Et quand elle soulève la question de votre impossible rattachement à Mélenchon, c'est intéressant, mais même Poutou, pourquoi il y a vous et Poutou? Ça n'a pas de sens, parce que finalement c'est un aristocratisme magnifique d'être trotskiste. Vous pouvez encore vous offrir le luxe de ces divisions qui sont à la fois éblouissantes et magnifiques, mais qui font pas sens pour le corps électoral. Alice qui nous appelle, elle comprend pas qui est Poutou, qui est vous, et puis même qui est Mélenchon. Ouais, non, c'est déroutant. Non, mais c'est vrai que c'est déroutant pour celui qui a pas la culture de l'histoire du trotskisme.
Alice n'a pas dit cela.
Elle a posé
une question à laquelle j'aimerais bien répondre.
Mélenchon l'a posée.
Elle a posé la question, pourquoi y a-t-il des exploités? Pourquoi y a-t-il des ouvriers? Pourquoi
question,
y a-t-il des gens qui travaillent effectivement pour même pas gagner leur vie? Pourquoi ceux-là votent pour Sarkozy, votent à droite? Elle a posé cette question-là et j'aimerais bien y répondre. Ensuite, répondre à votre question.
Alors,
je sais pas pour zapper du tout, mais...
Pourquoi y a des ouvriers qui portent Sarkozy?
Parce que je crois que voilà, quand on subit... Eh bien, on subit effectivement, et on a cette habitude là, on est dans cette société, on a l'impression finalement rien ne peut changer. Eh bien, on subit aussi, une sorte d'idéologie, une sorte de... voilà, vous savez quand même, 365 jours sur 365, on nous prêche la résignation. On nous explique que c'est comme ça. On nous explique qu'il y a toujours eu des riches, qu'il y a toujours eu des pauvres, que tout le monde ne peut pas avoir du talent, du mérite, n'est-ce pas? On nous met dans un moule, dans une sorte de conformisme. On nous assène cette idée que, c'est ceux qui ont du mérite qui arrivent et les autres, donc, voilà, on subit aussi ça, ces idées permanentes. Alors, justement, à l'occasion de l'élection présidentielle, à l'occasion où les médias sont un peu obligés de donner la parole à ceux qui contestent, à ceux qui sont à contre-courant, à ceux qui s'insurgent contre tout cela et qui disent que ça, c'est pas vrai, que y compris quand on nous dit qu'il y a plus d'argent, que c'est la crise, qu'il faut bien accepter de faire
vous
des sacrifices.
Vous êtes déjà venu dans mon émission au téléphone, Nathalie Arthaud. Vous êtes
oui,
déjà venu chez moi.
Je tiens quand même à le souligner. Je suis désolée, c'est quand même pas fréquent qu'on entend effectivement des révolutionnaires sur les grandes antennes et sur les grandes radios. Alors, écoutez, justement, cette élection nous donne la possibilité de nous faire entendre. Et nous ne voyons pas pourquoi il faudrait qu'on s'éclipse derrière un tel ou un tel. Voilà, tout simplement. Moi, je tiens à faire entendre cette voix-là. Et une voix qui est différente de celle de Mélenchon, dans le sens où effectivement, nous pensons qu'il faut renouer avec des luttes, avec des mobilisations puissantes, avec
si
un mai 68. Donc voilà, nous faire entendre, eh bien, c'est le début de prendre le contre-pied de tous ces préjugés qui sont malheureusement aussi dans la tête des travailleurs.
Question courte, réponse courte. La dilution, la division, difficile de lire... Problème de lisibilité pour les lecteurs. Pourquoi il y a Poutou? Pourquoi il y a Nathalie Arthaud? Est-ce que ça fait sens? Et puis il y a Mélenchon qui est pas très loin. Bon, et donc beaucoup de gens sont paumés. Donc problème de lisibilité. Est-ce que c'est pas un luxe aristocratique extrêmement pas compatible avec la période moderne que de dire, eh bien nous sommes comme ça. Il y a Poutou, il y a moi, on n'est pas tout à fait pareil. Lui il a renoncé au trotskisme pur et dur. Moi je demeure fidèle à. Bon, et c'est quand même.
Écoutez, il y a combien de partis au centre? Il y a combien de courants à droite? Il y en a toute une série aussi. Bon, chacun a le droit à la parole. Eh bien, écoutez, nous, effectivement, nous avons nos différences, notre diversité. Et je suis désolée, mais encore une fois, vous mélangez Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi? Parce qu'il parle d'un SMIC à 1700 euros. Écoutez, moi aussi, je parle
ça, vous n'aimez pas. Hein.
Moi aussi, mais bien sûr, parce que c'est une toute autre politique. C'est la gauche gouvernementale. La gauche gouvernementale qui va nous faire croire, à nous, travailleurs, encore une fois...
Vous serez jamais un parti de coalition. Vous serez jamais parti de coalition.
Qu'il faut attendre les élections pour que notre sort change. Et là, moi, je me lève en faux contre
Est-ce
ça.
Est-ce que vous serez un jour un parti de coalition?
On sera jamais un parti pour gouverner les affaires de la bourgeoisie. Et c'est pourtant bien ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, tous ceux qui sont au gouvernement, eh bien, ils doivent faire les affaires des banquiers. Ils doivent faire les affaires du grand patronat. Et ils répondent à leur diktats, à leurs demandes, à leurs desiderata. Et ils subissent leur chantage. Et à chaque fois, ils s'aplatissent. Donc non, nous, notre politique, c'est que les travailleurs fassent jouer leur force collective et qu'ils inversent le rapport de force. Et que la peur, elle change de
Pourquoi
camp.
Pourquoi, quand on est révolutionnaire, on participe au jeu électoral? Pourquoi est-ce qu'on se présente aux élections
présidentielles? Parce que nous avons un programme aussi politique à défendre et à présenter aux travailleurs.
Vous en foutez des élections, ça ne vous intéresse pas les élections.
Vous
allez faire 1% ou 2%.
Vous savez, les élections et des votes, il y en a tout le temps quand il y a des grèves et quand il y a des manifestations. Nous sommes pour. Nous sommes absolument pour. Et la preuve, je me présente. Et je pense que c'est très important, justement, de pouvoir s'exprimer. S'exprimer complètement. Complètement, sans se censurer. Sans dire, ah oui, je pense un peu comme lui, mais pas tout à fait. Bah, tant pis, je vais me mettre d'avec lui. Non. Qu'on dise tout ce qu'on pense. Et si on pense effectivement que les élections, elles ne peuvent pas changer notre sort, mais qu'elles permettent de nous exprimer, d'exprimer une colère, d'exprimer, y compris, un programme de lutte, eh bien, il faut l'exprimer. Il faut le dire. Moi, j'invite tous ceux qui partagent cette révolte et cette conviction-là. Mais de témoignages. Mais vous me faites.
Non, mais c'est ce que vous me dites.
Mais vous me faites rire avec ça. Écoutez, on est 10 candidats. Il y en a 2, en réalité, qui peuvent espérer être élus. Tous les autres sont des candidatures de témoignages. Mais moi, je témoigne. Je témoigne d'autre chose, justement. Eh bien, d'un espoir, de la conviction qu'on peut changer la société. Et que les exploités, eh bien, ils peuvent relever le gant. Ils peuvent changer les choses.
La révolution, c'est violent. Pourquoi est-ce que vous ne décidez pas de rentrer dans la violence?
La violence, elle est là, Et on l'a ressentait dans la vie d'Alice, la violence. La violence, aujourd'hui, on se retrouve, on tombe dans le chômage, on est condamné. On est condamné à la misère et à la pauvreté. Et ça, c'est une violence. C'est une violence que vivent aujourd'hui, vous savez, les 8 millions de femmes et d'hommes dans le pays qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, qui ont des problèmes pour remplir leur réfrigérateur, pour payer leurs factures. C'est une violence qui est quotidienne. Ça, c'est une violence c'est la violence de l'exploitation et de cette société où il n'y en a que pour les riches. Donc, moi, je suis pour justement résister à cette violence-là parce que je suis convaincue que, justement, on peut organiser la société tout autrement, sans qu'une minorité accapare l'essentiel des richesses, mais qu'au contraire, on organise l'économie pour qu'elle réponde aux besoins de tous, quand même. On n'a pas les moyens de construire le million de logements qui manquent dans la société capitaliste aujourd'hui. Si, on a les moyens. Mais tant qu'on attendra que ce soit les bétonneurs, les Bouygues, les Vinci, les compagnies qui le fassent, eh bien, on ne les aura jamais, ces logements.
Il y a jamais autant de logements sociaux construits que l'année dernière, quand même.
Il en manque 1 million. Ouais. Non. Des logements sociaux, non. Parce que, voilà, on rebaptise logements sociaux des logements qui sont inabordables pour des salaires, pour un SMIC inabordable. Donc non, moi je parle de vrais logements sociaux accessibles pour un salaire d'ouvrier. Vous comprenez, on nous explique qu'on peut pas avoir le SMIC à 1 700 euros, qu'il faut se contenter de 1 100 euros. Mais pourtant, on construit pas de logements qui peuvent être payés par des travailleurs à ce salaire-là. Alors il faut savoir. Donc non, la société elle est très violente et moi justement, c'est l'ensemble de l'économie qu'il faut réorganiser pour encore une fois qu'elle fonctionne pour répondre aux besoins de chacun. Et au XXIe siècle, je pense que c'est largement possible.
Alors, nous sommes avec Nathalie Arthaud, candidate à l'élection présidentielle lutte ouvrière. J'ai encore beaucoup de questions à vous poser et vous avez beaucoup de questions à lui poser. Cédric, là, qui appelle du Val-de-Marne, dans un petit instant, je prendrai Cédric, puis Bernard, qui appelle du Puy-de-Dôme. Mais il est 13h27, donc carrément Brunet, je vais demander à Alice Desgorges. Tiens, je remercie l'autre Alice, qui nous a appelé du département du Rhône,
merci,
qui était
Alice.
Émue de poser des questions et dont on a senti la détresse à ce micro, l'autre Alice Desgorges va nous donner déjà
un petit point sur le volumétrie. Je rappelle que pour vous Eric, il y a trop de candidats d'extrême gauche à l'élection présidentielle. Pour le moment, vous êtes carrément d'accord à 73%. On vous attend sur rmc.fr, c'est gratuit, vous participez au Brunémétrie.
Allez, dans une seconde, on retrouve Nathalie Arthaud.
Carrément Brunet, Éric Brunet. RMC, intégrale présidentielle. Carrément Brunet, Éric Brunet.
Vous votez sur rmc.fr, je défends l'idée qu'il y a trop de candidats d'extrême gauche à l'élection présidentielle, trop parce qu'on manque de lisibilité. Nathalie Arthaud est avec moi dans le studio de Carrément Brunet. Vous lui posez des questions. Je rappelle, Nathalie Arthaud, que vous avez pris 20 jours de congé puisque vous êtes enseignante, vous êtes professeure d'économie et de gestion à Aubervilliers dans un lycée, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Cédric m'appelle du Val-de-Marne, il a 37 ans, il est commerçant. Bonjour Cédric.
Bonjour Eric.
Votre question.
Vous me permettrez de poser deux petites questions à Madame Arthaud.
Allez-y.
Bonjour.
Bonjour. Alors déjà, moi, contrairement à Ali, je ne suis pas ému, mais gêné de parler à une représentante de l'extrême droite, puisque moi...
droite
rouge, d'extrême gauche, pardon. Puisque pour moi, rouge, vert, brun, c'est un petit peu pareil. Mais ça me dérange. Je vais y aller. Ma question, c'est d'abord... j'ai un sentiment de malaise depuis Toulouse, parce que l'extrême gauche, comme les verts, ont une part de responsabilité dans leur soutien et leurs différents discours. Déjà, premièrement. Ensuite, ma question est plus économique. Je bénéficie de déduction des intérêts d'emprunt sur mon logement. Et vous, Madame Marteau?
Ah, vous faites allusion à l'article du Canard Enchaîné sur lequel j'allais vous poser
et
une question.
Et sur les droits de succession, puisque mes parents ont travaillé toute leur
vie. Attendez, il faut être clair là, parce que les gens vont pas comprendre. Si j'ai bien compris, Nathalie Arthaud, j'ai lu dans le Canard Enchaîné, vous allez répondre, que vous devriez payer 2140 euros d'impôts, mais grâce à une mesure du paquet fiscal, les intérêts payés sur l'emprunt pour l'achat de sa résidence principale, vous n'avez pas payé d'impôts. Voilà, c'est ce que j'ai lu dans le Canard Enchaîné ce matin.
Alors oui, c'est vrai en partie, parce que si je paye pas d'impôts effectivement, en gagnant 27 000 euros sur l'année, c'est parce que effectivement j'ai une remise d'intérêt parce que je viens d'acheter ma résidence principale et donc j'ai dû faire un crédit que je vais réussir à payer peut-être au bout d'une quinzaine d'années, et donc j'ai eu une remise d'intérêt d'impôt, mais j'ai aussi une remise.
Si j'étais taquin, je dirais c'est grâce à Sarkozy.
Mais
si j'étais taquin.
Mais j'ai aussi une remise parce que je verse un don à Lutte Ouvrière, parce que voilà, ça fait partie aussi de mes principes et de mes habitudes, donc j'ai aussi une remise à ce titre-là, et j'ai aussi une remise de 600 euros parce que j'avais trop payé d'impôts l'année dernière. Donc
ça s'appelle une niche, vient de dire Cédric, qui est assez taquin lui aussi.
Et par ailleurs, moi je suis effectivement, je vois pas pourquoi je n'aurais pas droit à ce que toute la société a droit, voilà, tout simplement. Donc j'ai rien à cacher, je ne cache rien, et en même temps j'ai les droits que les autres ont également dans la société.
Il y a un volet social alors dans le paquet fiscal de Sarkozy, puisque c'est pas mal finalement de pas payer d'impôts grâce à ce dispositif qui prend en compte les intérêts que vous payez sur l'achat de votre résidence principale.
Alors, il n'y a pas que ça qui fait que je ne paye pas d'impôts, vous voyez, c'est que aussi j'avais trop payé l'année dernière, et c'est aussi parce que je fais un don à Lutte Ouvrière. Mais ce que je dénonce, moi, dans cette mesure-là, c'est qu'effectivement, il faut encore réussir à décrocher un prêt. Et moi, si j'ai réussi à décrocher un prêt pour acheter effectivement un appartement qui fait 48 mètres carrés...
C'est parce que vous êtes prof.
C'est parce que je suis prof. C'est parce que je suis prof. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, bien des travailleurs n'arrivent pas à décrocher ce prêt-là. Parce que justement, ils gagnent pas assez, parce qu'ils sont précaires, parce que ils sont malades aussi parfois, et ça c'est scandaleux. Donc effectivement, moi j'ai réussi à décrocher ce prêt, mais je vois pas que midi à ma porte. Justement, je dénonce aussi bien toutes les injustices qui sont faites dans la société, qui fait que malheureusement ce crédit d'impôt n'a pas pu profiter à bien d'autres qui voulaient pourtant acheter leur appartement ou une maison pour y vivre.
Merci Cédric. Nathalie Arthaud, vous connaissez Christophe Bourseiller?
Je le connais seulement via les médias et les livres.
Et Christophe Bourseiller, vous le connaissez, il est écrivain, il est journaliste, il est maître de conférences à Sciences Po, il est acteur, comédien, il fait du théâtre, du cinéma, il est spécialiste des extrêmes, de l'extrême gauche en particulier. Il a écrit un peu sur l'extrême droite, mais surtout sur l'extrême gauche, et il est au téléphone avec nous. Bonjour Christophe Bourseiller.
Bonjour Eric.
Vous qui êtes un expert de l'extrême gauche, j'espère que vous allez éclairer ma lanterne. Sur les 10 candidats, il y en a pas mal qui sont ou qui ont été trotskistes dans leur vie.
Ah bah c'est vrai, oui, le trotskisme est souvent une valeur très partagée. Enfin, certains d'entre eux, comme Jean-Luc Mélenchon, ont rompu avec le trotskisme depuis pas mal de temps, donc évidemment.
Quelles sont les différences entre Philippe Poutou, entre Nathalie Arthaud et entre Mélenchon, puisque vous parlez de lui?
Bah, si vous voulez, il y a une grosse différence entre Mélenchon d'un côté, Poutou et Arthaud de l'autre, d'abord. C'est-à-dire que Mélenchon s'intègre à cet ensemble qu'on pourrait appeler la gauche de la gauche, c'est-à-dire c'est un ensemble dans lequel il y a le parti de gauche et le PCF, notamment, et qui prétend revenir aux fondamentaux de la gauche que la gauche traditionnelle aurait oublié. Et par contre, Poutou et Arthaud, eux, ils sont d'extrême gauche, c'est-à-dire qu'ils sont révolutionnaires. Donc eux, ils ne pensent pas passer par l'élection, ils pensent que l'élection ce n'est qu'un cirque électoral et qu'on ne peut arriver au socialisme que par un moment violent.
C'est très folklorique et en même temps très sympathique. Je dis à vous qui avez publié cette histoire générale de l'ultra-gauche
il y a quelques années
chez De Noël, et je sais que vous avez regardé ça avec une grande acuité, une grande attention, mais est-ce que c'est compatible avec la modernité, ces petites querelles, quand on voit les intentions de vote, 0,5 point pour Poutou, 1 point pour Nathalie Arthaud, on se dit, mais faut qu'ils arrêtent, quoi.
C'est-à-dire que les militants d'extrême-gauche s'aperçoivent d'une espèce de triste réalité électorale, c'est que pour avoir un bon score, il faut avoir un candidat charismatique, au fond. C'est pas tant le programme que le charisme qui compte, parce qu'il n'y a pas tellement de différence entre le programme de Jean-Luc Mélenchon et le programme de Poutou et Artaud. Disons que Poutou et Artaud sont légèrement plus radicaux, pourrait-on dire, mais enfin, à peine plus que Mélenchon. La différence, c'est que le fait est qu'il y a dans l'inconscient collectif et dans la mémoire collective quelque chose qui se réveille avec Jean-Luc Mélenchon, parce que nous nous souvenons, nous les plus vieux, de Georges Marchais. Et de même que François Hollande nous rappelle subtilement François Mitterrand dans certains de ses discours par sa manière de parler, de même, c'est très bizarre ce qui se passe aujourd'hui, mais c'est comme si on revivait l'élection de 81, puisque Jean-Luc Mélenchon, lui, il a adopté ce style gouailleur et provocateur à l'égard des journalistes, qui était la marque de fabrique de Georges Marchais il y a quelques années.
Faisons un peu de sociologie de comptoir, hein. Vous qui avez travaillé sur le sujet, c'est qui, ils sont comment les militants de lutte ouvrière de Nathalie Arthaud?
Nathalie Arthaud, c'est un cas particulier, parce que alors que Poutou prétend dépasser le trotskisme, alors que lui se dit justement moderniste, elle dit pas du tout, moi je suis la seule vraie communiste, je suis la dernière trotskiste, et c'est vrai que lutte ouvrière, c'est un mouvement qui n'a pas varié depuis sa création en 1939, hein. C'est la même organisation, c'est une organisation avec un seul style politique, on ne change pas une équipe qui gagne, pense-t-il, et donc il y a quelque chose d'assez touchant, et les militants de lutte ouvrière, quand on discute avec eux, moi j'ai eu l'occasion d'en approcher beaucoup, ce sont des gens qui sont généralement d'une très grande probité, d'une grande honnêteté intellectuelle, on les a comparés à bon droit à des moines soldats. Mais il y a quelque chose d'un dévouement chez ces militants qui est de cette nature-là, effectivement.
Je me souviens, Christophe Bourseiller, d'articles il y a quelques années qui disaient que bon, c'était un système de fonctionnement militant un peu en cercle fermé et qu'on n'était pas
toujours
très loin parfois de la secte.
Bon, oui, mais toujours. Oui. Tous ces groupes-là sont toujours dans des fonctionnements très, très fermés, souvent suspectés de sectarisme, et ils oscillent d'ailleurs entre l'ouverture et le sectarisme, tous autant qu'ils sont. C'est une marque de fabrique de la plupart de ces organisations extrémistes, qu'elles soient de droite ou de gauche d'ailleurs. C'est quelque chose qu'on observe dès qu'on s'approche des extrêmes, en quelque sorte.
Qu'est-ce que ça vous apprend, le trotskisme ?
Bah écoutez, je peux pas vous dire parce que je n'ai pas été trotskiste, mais je crois que c'est une école de la survie, parce que les trotskistes se sont développés dans les années 50, notamment face aux staliniens qui faisaient tout pour les empêcher de s'exprimer. C'est un peu les trotskistes se prennent un peu pour les gardiens du temple communiste, en quelque sorte. Et donc il y a quelque chose d'une sorte de fraternité secrète, pourrait-on dire. Et c'est pour ça que Edoui Plenel, quand il évoque son trotskisme passé, par exemple, fait référence à un trotskisme culturel. Alors, il veut dire par là qu'il y a une espèce de culture trotskiste, une culture de l'entraide, une culture de la fraternité qui est réelle, mais qui est vraie dans les autres courants. C'est-à-dire que vous avez une espèce de fraternité des anciens maoïstes, vous avez une fraternité des anciens anars, vous avez, c'est quelque chose qu'on retrouve, et qu'on retrouve à droite aussi. Les anciens militants d'extrême droite d'Occident, par exemple, c'est ça, qui eux ont connu beaucoup plus de souffrance, parce qu'ils ont été beaucoup plus démonisés, finalement, ils ont cultivé aussi une forme d'entraide.
Mais je vous remercie beaucoup, Christophe Bourseiller. Je rappelle, pour ceux que ça intéresserait, qu'il y a quelques années, vous avez publié l'Histoire générale de l'ultra-gauche, c'est chez De Noël. Vous travaillez sur quoi? Vous sortez un livre prochainement?
Je viens de sortir un autre livre qui est une réflexion d'ensemble sur le phénomène extrémiste, de droite comme de gauche.
D'accord.
Qui s'appelle L'extrémisme, une grande peur contemporaine, et ça vient de sortir au CNRS édition.
Ah ben très bien, on vous invitera sur ce thème. Merci
avec
beaucoup. Au revoir, Christophe.
Au revoir, Eric. Merci.
Voilà, je vous rappelle que nous sommes avec Nathalie Arthaud, que vous votez sur rmc.fr. Vous êtes assez nombreux à voter. Le brunimétrie aujourd'hui, c'est quoi? C'est il y a trop de candidats d'extrême gauche, c'est du moins ce que je pense. C'est 2/3, 1/3 à peu près. Donc n'hésitez pas à voter, donnez-moi votre avis. Est-ce que vous pensez que c'est bien, au nom de l'exercice démocratique, qu'il y ait cette diversité à la gauche de la gauche, hein, ou est-ce que vous pensez comme moi qu'il y a une dilution et une perte du message? Donc c'est vous qui votez, c'est sur rmc.fr. À droite, en haut à droite, sur la home page du site internet, et c'est gratuit. Nathalie Arthaud, tout à l'heure, tiens, vers 13h, les grandes gueules m'ont dit à l'antenne, au moment du passage antenne, juste avant le journal, ils m'ont dit, il paraît que à lutte ouvrière, eh bien, on fait pas de bébés, faut pas faire de bébés, parce que l'action militante, eh bien, fait qu'on vous interdit de faire des bébés. C'est vrai, vous, Nathalie Arthaud, vous interdisez à vos militantes d'avoir des enfants?
Écoute, alors là, c'est le genre d'imbécilités qui sont répétées sans fin. Je crois qu'il faut être journaliste pour être aussi bête. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Là, j'ai entendu effectivement le point de vue de Christophe Bourseiller. Alors voilà, c'est le point de vue d'un spécialiste qui va étudier. On a l'impression qu'il fait une enquête ethnologique et tout. Vous savez, tout ça, ça m'amuse beaucoup parce que voilà, ça donne l'impression
en même temps,
qu'on
vous
est
êtes un peu en voie de disparition, c'est normal.
De tribu, etc. Mais ça m'amuse parce que en réalité, qu'est-ce que vous voulez, les travailleurs nous connaissent bien parce qu'ils nous connaissent en tant que militants, ils nous connaissent en tant que compagnons de travail, en tant que voisins, en tant que et on partage tout ça en commun et voilà et ils nous voient surtout comme des gens qui avons des convictions, ça c'est sûr. Qui avons des convictions, qui avons même de l'ambition de changer la société, ça crée, oui, une fraternité entre tous ceux qui partagent ces idées, ça c'est sûr. C'est vrai qu'on est minoritaire, ça peut donner le point de vue de ceux qui regardent de loin, hein, un point de vue, oh là là, un petit groupe comme ça. Oui, on est minoritaire, bon, écoutez,
et
voilà.
Avant de passer la parole à Bernard, qui m'appelle du Puy-de-Dôme, il y a un truc qui me fascine, mais croyez-moi, c'est pas une question piège, je suis fasciné par l'empreinte des trotskistes, dans la société française. Je vais vous donner quelques noms, d'ailleurs dans le monde entier, hein, l'artiste peintre. Alors, il y a des tas de gens qui ont flirté avec le trotskisme, je ne dis pas qu'ils ont été.
Mais bien sûr.
Fascinant, de Frida Kahlo, les socialistes en France, Cambadélis, Julien Drey, Jospin, c'est celui qui a été le plus proche du pouvoir quand même, des anciens trotskistes. Besancenot, bien sûr, Poutou, Krivine, Mélenchon, c'est-à-dire que lui, il a carrément pris d'assaut la Bastille stalinienne, ce qui est un anachronisme extraordinaire pour un ancien trotskiste. Edoui Plenel, bien sûr. Mais alors des gens aussi comme Michel Fields, qui ont été des compagnons ou qui ont eu des amitiés très fortes, on va dire, avec voilà Bertrand Tavernier, Alain Corneau, Romain Goupil, le cinéaste britannique Ken Loach, voilà Jean-Jacques Goldman, aurait été proche à un moment dans sa vie. Je ne dis pas que ce sont des militants, bien sûr. Jacques Higelin, Alex Métayer, Régis Debray. Et il y a même un type de droite, j'en ai trouvé un, il est mort aujourd'hui, c'était le juge Jean-Pierre. C'est le seul ancien Trotskar qui est devenu, il était d'ailleurs député européen sur la liste de Philippe de Villiers. Comment est-il possible que vous ayez tant d'amitié intellectuelle, hein, et que vous soyez un parti seulement crédité d'1% des voix? Quand on a tous ces gens-là, on est champion du monde, on n'est pas un petit parti révolutionnaire réduit à 1%.
Écoutez, d'abord, moi ça ne me surprend pas qu'il y ait des gens, des intellectuels aussi, des artistes qui soient révoltés par ce qui se passe et qui aspirent à changer complètement la société. Ça m'étonne pas, ça. Et je tiens quand même à vous rappeler qu'effectivement, les idées révolutionnaires dans les années fin des années 60, oui, elles ont suscité beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'envie. Et aujourd'hui, on est dans le creux de la vague. Ça, c'est vrai. Aujourd'hui, on est dans le creux de la vague et ceux qui ont encore ces espoirs-là sont moins nombreux. N'empêche que je pense aussi que c'est le capitalisme qui produit forcément des gens qui justement ont envie, hein, de combattre cette société-là qui produit les exploités, qui produit la misère et forcément qui produit la révolte qui correspond. Voilà, et je crois que ces idées-là, elles ont y compris de beaux jours devant elles.
Dommage qu'elles n'en aient pas, parce que j'ai oublié tant d'anciens grands maîtres du Grand Orient de France qui ne se sont pas cachés, comme Fred Zeller, Jacques Lafouge, Patrick Kessel, d'avoir eu aussi des amitiés très fortes avec vos idées.
Oui, alors beaucoup ont changé quand même, hein, ont changé de point de vue et ont trouvé leur place.
Ils ont des retards sur les paiements de cotises.
Et ont trouvé leur place dans la société. Bon, eh bien, pas nous. Et nous, on continue de lever ce drapeau-là. Et moi, je suis convaincue qu'il y aura, y compris des jeunes, dans les années à venir, qui vont se poser toutes ces questions, qui vont quand même faire le bilan de cette économie, hein, et de cette société dans laquelle on vit, qui est très violente et puis qui est injuste. Et j'espère que tout cela, se diront oui, on peut changer et on peut. Il faut le changer sur une base collective, justement, sur une base collective, sur la base la plus large possible. C'est pas normal que ça soit une minorité qui dirige toute l'économie parce qu'elle a apporté les capitaux et qui du coup impose sa loi à l'ensemble de la société.
Alors, on va faire un point sur le brunimétrie avec Alice Degors.
Ça se passe sur rmc.fr. Je rappelle que pour vous, Eric, il y a trop de candidats d'extrême gauche à l'élection présidentielle. Ça n'a pas beaucoup bougé puisque vous êtes carrément d'accord à 73%.
Oui, mais il y en a 27% qui sont d'accord avec Nathalie Arthaud. Je vous souhaite de faire 27% Nathalie Arthaud. Oui.
C'est déjà pas mal. Enfin, moi, je dois vous dire que, à mon goût, il y a trop d'experts, trop de journalistes, trop qui 365 jours sur 365
occupent. Il n'y aura pas de débat, on va être d'accord.
Tous les médias et qui disent tous la même chose.
Je suis bien d'accord avec vous. Alors là, on est en convergence.
Parce que moi, je ne vois pas bien de différence, je dois vous avouer.
Bon, on se retrouve dans une seconde. Allez, je l'ai promis, ce sera Bernard qui vous posera une question et on fera également la queue du Mickey sur les indécis.
Retrouvez tout RMC sur rmc.fr.
Des mails ?
Des mails. Je vais commencer, si vous voulez bien, Eric, par des réactions sur la page Facebook de l'émission. Le nom de la page Facebook de l'émission, c'est Carrément Brunet RMC. Patrice, lui, nous a écrit un petit message court mais précis. Il n'y a jamais trop de candidats. Donc il est carrément pas d'accord avec vous, Eric. Sébastien.
Mais lui... j'aime bien ça. C'est vrai, mais il a raison. Moi, je déteste ce monde bipolaire, insupportable, anglo-saxon, où il y a les travaillistes et les conservateurs, les républicains et les démocrates, vaguement un troisième parti, et où on s'ennuie. J'ai un copain qui est rentré d'Australie qui m'a dit, j'ai assisté à une campagne électorale en Australie, c'est épouvantablement ennuyeux et stérile sur le plan des idées. Donc effectivement, ne boudons pas notre plaisir. Il y a aussi une alternative à ce que je dis, c'est que la campagne électorale est plutôt riche sur le plan des idées. Même si on passe notre temps à râler, à dire que c'est pas bien.
Autre réaction sur la page Facebook de l'émission, celle de Sébastien qui nous dit « Oui, c'est vrai, Monsieur Brunet. Madame Artaud et Monsieur Poutou devraient se retirer pour laisser plus de place à Mélenchon. »
Oh, ça va, tiens, il va nous l'énerver. Il va nous énerver.
J'ai pas terminé. Enfin, Sébastien n'a pas terminé. Sébastien ajoute « Tiens, Hollande devrait aussi se retirer pour favoriser Mélenchon. » Voilà. Un petit peu d'ironie de la part de Sébastien.
Sarkozy aussi, peut-être.
Ça laisse plus de place. Probablement, si j'en crois le message de Sébastien, effectivement. Grégoire, lui, il nous a envoyé un mail. Je vous rappelle l'adresse pour nous écrire. Je lis tous vos mails consciencieusement en régie pendant l'émission. C'est carrément Brunet, tout attaché en minuscule, @rmc.fr. Grégoire, il nous a écrit de Lille. Il nous dit « J'ai 21 un an et je suis profondément perdue entre le Front de Gauche, le NPA, Lutte Ouvrière. Comment voulez-vous passer le premier tour au moins une fois en étant aussi divisé, autant divisé ? Ça me tue de voir toujours les mêmes personnes passer et gouverner. Réunissez-vous, car seul, jamais vous ne passerez et ça me tue. » Voilà, c'est assez clair ce que nous dit Grégoire qui nous a écrit de Lille. Vous continuez à nous écrire, l'adresse c'est carrementbrunet@rmc.fr.
RMC. RMC, intégrale présidentielle. Carrément Brunet, Éric Brunet.
J-25 avant le premier tour des élections présidentielles, c'est la minute consacrée aux indécis. Il paraît que vous êtes encore 19% du corps électoral à ne pas savoir pour qui vous allez voter. L'indécise du jour s'appelle Lila.
RMC, Carrément Brunet, la queue du Mickey.
Lila est dans le département de la Loire-Atlantique, elle est responsable administrative. Bonjour Lila.
Bonjour.
Prenez s'il vous plaît votre téléphone dans la main gauche et jurez-moi bien que vous êtes une indécise.
Je le jure.
Lila, qui a suscité votre intérêt lors des dernières heures?
Justement, en fait, c'est ce que j'expliquais à votre... Ouais.
À la standard. Personne qui
a pris... Voilà, ouais. Tout à fait. Que j'étais en fait une vraie indécise. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est un candidat, le lendemain, c'est un autre. Ah. Même si, quelque part, je penche pour une personne.
C'est qui?
C'est Mélenchon.
Bon.
Donc en fait, je pense sur Mélenchon, pas sur le côté communiste, je le précise bien, mais c'est surtout sur le côté en fait humain et partage. Donc je trouve que c'est quelqu'un en fait qui insiste là-dessus, et je trouve que c'est des valeurs très importantes. C'est-à-dire que quelle que soit l'origine de la personne, la couleur, quel que soit, le plus important c'est la valeur humaine. Et c'est ce qui m'attire en fait chez cette personne plus que chez les autres.
Bon ben voilà, Lila, c'est une histoire de séduction, presque d'amour, one point de plus pour Mélenchon. Au revoir. Au revoir, Lila.
Au revoir.
Merci à vous. Un point de plus, on fera un bilan vendredi avec Alice Desgorce. Je crois que Mélenchon est pas trop mal placé chez les indécis, en tout cas. Merci à vous, Lila. Je vais vous faire écouter, Nathalie Arthaud, un petit son. Écoutez.
Travailleuse, travailleur, je me présente à nouveau dans cette élection contre des avocats, des économistes, des politiciens professionnels, parce que je crois toujours que les travailleurs, ouvriers et employés, et tous ceux qui vivent de leur travail sans exploiter personne, petits commerçants, artisans, paysans, qui produisent toutes les richesses et sur lesquels repose toute la société, ont d'autres droits que de faire les frais de la crise et de se taire. Non, travailleuse, travailleur, nous ne ferions pas plus mal si nous étions directement à la gestion des affaires au lieu d'être simplement ceux qui produisent pour que des parasites gâchent le fruit de nos efforts.
Ça vous émeut ça, Nathalie Arthaud? C'était le 13 avril 1981 et Arlette Laguillet présentait donc sa candidature pour l'élection présidentielle de 81. C'est quelqu'un qui compte pour vous, que vous voyez toujours, c'est une amie,
il n'y a rien à rajouter aujourd'hui. On est exactement dans la situation qu'Arlette Laguillet a décrite là. Cette crise que le patronat fait payer aux travailleurs, hein, avec ce qu'ils ont de plus cher, avec leur emploi, leur salaire, leur retraite, pour s'en sortir eux, hein, pour que les actionnaires soient continuent d'être inondés, hein, de dividendes. On est exactement dans la même situation.
Mais j'ai essayé d'initier une petite séquence émotion avec vous. Vous repartez. J'ai envie de vous dire, c'est collecteur.
C'est assez rare. Si vous voulez que j'ai la parole sur votre antenne, j'en profite pour dire pour défendre mes idées,
non,
justement, parce que sinon.
Non, mais je sais pas ça. Je veux dire, c'est quelqu'un de sympa. Vous avez entendu tout à l'heure la dame qui nous disait, je vais voter pour Mélenchon parce qu'il est sympa. Je veux dire, c'est soudainement.
Non, elle a pas dit ça. Elle a dit parce qu'elle se retrouvait dans les idées de Mélenchon, hein, selon lesquelles.
Elle le trouvait humain.
Selon lesquelles, justement, il n'y a pas de différence, effectivement, entre les travailleurs et entre les petites gens en fonction de leur couleur de peau, leur origine. Et là-dessus, je suis mille fois d'accord.
D'accord.
Et voilà, je crois que c'est surtout le sens de ce qu'elle a dit.
Il nous reste qu'une minute, mais c'est pas grave, je prends le risque complètement inconsidéré de vous passer Bernard, qui est dans le Puy-de-Dôme, qui est sans profession, qui a 36 ans et qui veut vous poser une question. Il va falloir aller très vite, Bernard. Bonjour Bernard.
Bonjour.
Alors, quelle question voulez-vous poser, Bernard, à Nathalie Arthaud?
Une question de fond par rapport à son programme. Comment elle compte faire pour interdire la délocalisation? Ça me paraît un peu en contradiction par rapport à ce que la France a signé au niveau de l'Europe, notamment aux articles 63 et 32 du traité de fonctionnement de l'Union européenne.
Eh bien, nous, c'est l'interdiction des licenciements. Que aucune usine ne ferme, que les groupes préservent toutes leurs usines, tous leurs sites. Voilà, une mesure qu'on pourrait prendre, qu'on pourrait imposer au patronat.
Merci beaucoup à vous, Bernard. Merci d'avoir joué le jeu, Nathalie Arthaud, de Carrément Brunet, pendant une heure. Comment vous votez, vous, Nathalie, sur le brunométrie du jour? Donc, pour Éric Brunet, il y a trop de candidats d'extrême-gauche à l'élection présidentielle. Vous êtes carrément d'accord ou carrément pas d'accord?
Je suis carrément pas d'accord, évidemment. Moi, je pense qu'il faut que tout le monde, mais tout le monde, et même quand on est tout seul, il faut dire ce qu'on pense. Voilà. Même quand on est tout seul, on peut dire qu'il y en a marre, qu'on est en colère, qu'on est, Et même tout seul, et c'est ça qui fait avancer, je crois, la société.
Vous ferez plus de 2%?
Ça, on verra. Mais vous savez, y compris les idées que je défends, l'interdiction des licenciements, l'augmentation des salaires, le fait que les travailleurs puissent contrôler ce qui se passe dans les entreprises et l'argent qu'il y a. Vous savez, ces idées-là, de toute façon, elles touchent, elles passent, elles tombent pas dans l'oreille de sourds, hein, elles tombent dans l'oreille de travailleurs qui sont confrontés à ces situations-là. Et je suis sûre que tôt ou tard, eh bien, elles serviront.
Merci à vous, en tout cas, d'être venu.
Merci.
Carrément Brunet. Merci. Au revoir.